Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements, dans le Tarn et la ville de Gaillac qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Alors dans cette aventure père et fils, eh bien c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast « Le jardin de mon père ». Bon, papa, c'est le printemps.
Comment ça, papa? Mais je ne savais pas que j'étais votre père.
Bah oui. Bah si, t'es mon papa. T'es mon papa.
Quelle surprise.
Bah oui. T'étais pas au courant?
Non.
Hein? Bon.
On dit qu'il y en a qui couvrent tous les jours. Hein.
Exactement, exactement. Alors dis-moi, c'est le printemps. J'ai un jardin. J'ai envie d'acheter des plantes. Comment je fais?
Est-ce que, mon cher fils... Vous savez ce que vous voulez, ou pas?
Aucune idée.
Aucune idée.
C'est pour ça que je te demande, parce que j'ai... Ouais. Alors, en réalité, j'ai pas du tout la main verte, et je me dis, bah, qu'est-ce que je fais, comment je fais
Alors, attention. Nous sommes tous sujets au coup de cœur. Hein. Moi y compris. Hein. Bon. Les quelques conseils qui suivent vont peut-être vous
même
paraître...
Même à ton âge, encore des coups de cœur?
J'aimerais bien ne pas être interrompu de façon régulière. Les quelques conseils qui suivent pourront vous paraître... peut-être un peu excessif. Et pourtant, je pense qu'ils sont nécessaires.
D'accord.
Ok.
Ok.
Désormais au jardin, nous devons tenir compte du changement climatique et de ses excès. Réchauffement, canicule à répétition, 76, 2003, 2015, 2020.
2022.
Enfin, si on veut.
Peut-être. Bah là, on est quand même dans une période de sécheresse en ce moment.
Oui, mais ce n'est pas une sécheresse avec... pour le moment, il ne pleut pas. Alors, on n'est pas encore en sécheresse. Hein. Bon. Sécheresse, bien sûr, consécutive. Hein. On a des hivers rigoureux ou bien des hivers doux. On a des coups de froid printaniers. Rappelons-nous 2021, qui a été une petite catastrophe. Des précipitations irrégulières, voire très violentes, hein, etc. Alors, on voit bien que beaucoup de végétaux que nous avons plantés dans nos jardins, bah, ils souffrent de ces nouvelles conditions climatiques hein, auxquelles ils ne sont pas adaptés. Le stress hydrique, à répétition, d'abord. Une brûlure ou des brûlures et des sèchements du feuillage hein, qui finissent par les épuiser. C'est-à-dire que ça, ils ne sont pas épuisés la première année, mais ils peuvent être au bout de 2 ans ou 3 ans. Les stress s'accumulent, hein, se superposent.
Tu veux dire que la plante ne réagit pas tout de suite, elle prend du temps et ensuite elle l'exprime de différentes manières.
Bon, on
peut dans la durée.
On pourrait comparer une fatigue.
D'accord.
On se fatigue un peu, bon, ça va, on est fatigué.
Au début, elle compense.
Voilà. Mais après, au fur et à mesure que les fatigues s'accumulent, ça devient une grosse fatigue et patatrac. C'est la même chose pour les végétaux. Hein. Alors, il y a d'autres végétaux qui ont des feuillages plus coriaces, hein, plus épais. On voit bien ici avec les chênes verts, par exemple. Hein. Ou de couleur allant vers le gris, hein, et ces plantes-là vont s'en sortir beaucoup mieux. Mais pendant encore combien de temps? C'est là le problème, on ne sait pas. Hein, dans tout ce qu'on nous raconte, dans tout ce qu'on nous prévoit, dans tout ce qu'on nous dit, on a du mal à dire c'est dans 10 ans, c'est dans 5 ans, c'est dans 25 ans, etc. Dans les espaces naturels de notre région, hein, dans notre région ici, ou dans d'autres régions, comme dans nos jardins, on constate déjà la disparition de certaines essences locales. Même.
Donc on ne peut pas choisir une plante comme ça, je veux dire, il faut quand même avoir une réflexion derrière. Voilà. Moi je sais que ça m'est souvent arrivé de voir une plante qui me plaisait bien, que j'avais vue dans certains endroits, je l'ai plantée chez moi, et puis elle est morte. Quoi.
Voilà. Alors, ce sont des choses qu'on pouvait se permettre avant, parce qu'on avait, la plupart des lotissements, les terrains sont pas tous les mêmes, mais se ressemblent un peu. Ici, en Méditerranée, y avait des végétaux bien adaptés, qu'on trouvait sur place. Mais ça n'empêche pas, comme tu viens de le dire, qu'on pouvait faire des erreurs sur des coups de cœur. Je reviens au début. Hein. Et on est tous pareils, moi y compris. Hein. Moi, il m'est arrivé, tout en sachant que j'allais faire une bêtise, de persister à la faire. Hein. Et puis de me rendre compte 6 mois plus tard que ce que j'avais prévu est en train de se produire, la plante a mal repris. Donc c'est une dépense inutile, c'est une perte de temps, c'est une déconvenue, c'est tout ce qu'on voudra. Alors si vous n'avez pas fait votre choix, ou bien si vous avez des idées à conforter,
Comment je fais alors ?
Eh bien, vous allez sur Internet, dans des ouvrages de jardinage. Hein. Mais une des meilleures solutions, c'est d'aller visiter plusieurs pépinières locales hein, qui sont réputées pour proposer des plantes adaptées à la région où vous habitez. Hein. Bon.
Donc c'est quoi une pépinière locale ?
C'est une pépinière qui est à côté de chez vous.
D'accord, ce n'est pas les grandes surfaces ou les trucs comme ça, c'est des gens qui ont une connaissance du lieu.
Je ne peux pas faire de tort aux jardineries, mais ce n'est pas une jardinerie. Une pépinière, c'est un pépiniériste, c'est quelqu'un qui cultive des végétaux et qui les vend. Alors, c'est vrai qu'il ne cultive pas tous les végétaux qu'il vend, il en achète une partie parce qu'il ne peut pas tout cultiver, mais c'est quelqu'un qui est spécialisé dans la culture et la vente de végétaux. Alors, il peut être spécialisé aussi que dans des rosiers, par exemple, hein, ou que dans des arbres fruitiers. Mais en principe, ils ont une gamme de végétaux assez étendue qui vont des fruitiers aux arbres décoratifs et aux arbustes et même aux rosiers, voire même aux plantes vivaces.
D'accord. Voilà.
Alors, je disais donc qu'il faut aller voir un pépiniériste, hein, ou des pépiniéristes. Prenez votre temps, hein, c'est mieux. Soit elles auront un catalogue bien renseigné, quand je dis bien renseigné, vous allez comprendre après, soit elles seront de bons conseils grâce aux particularités, de votre espace jardin, que vous devez connaître et que vous leur communiquerez. C'est là où ça se corse un petit peu. Hein. Il n'y a pas besoin d'être chimiste ni d'être un grand jardinier. Hein. Bon, simplement. Vous connaissez le climat de votre région, voire le microclimat. Vous connaissez l'exposition, là où vous voulez mettre la plante.
Ouais.
C'est à l'ombre tout le temps, c'est à mi-ombre ou c'est en plein soleil.
Okay. Hein.
Bon, ça c'est facile à trouver. Les températures maximales l'été. Est-ce que vous avez des fortes chaleurs, des sécheresses ? Est-ce que l'hiver vous avez vraiment des coups de froid ou le climat est doux hein ? Par exemple, si on prend ici le cas, apparemment c'est frais l'hiver. Si on va sur le littoral, c'est relativement doux. Hein. Et dans d'autres régions, c'est pareil. Donc, les températures maximales, votre type de sol, alors c'est là où ça se...
Ouais, c'est un peu plus compliqué.
Un petit peu plus compliqué. Bon. Votre type de sol, argileux, sablonneux, caillouteux, drainant, calcaire, acide, humide, sec. Alors, si vous ne savez pas, ce n'est pas compliqué, il y a souvent des voisins, et pas les plus jeunes, qui connaissent bien le jardin. Hein, même s'ils continuent de cultiver de façon un petit peu non écologique... Au moins, ils savent si le sol est acide ou s'il est calcaire.
Mais tu m'avais fait faire un truc, là, un petit test pour l'acidité.
Je vais vous le redire. Hein. Donc, il y a une solution pour savoir tout. Bon, argileux, vous n'avez pas besoin, hein, c'est facile. Sablonneux, c'est facile. Ouais. Caillouteux, rocailleux, c'est facile aussi. Humide ou sec, c'est facile aussi. Mais acide ou calcaire, c'est un petit peu plus délicat. Donc, la solution la plus facile et la plus pratique... Vous ramassez de la terre aux quatre coins de votre jardin, hein, sur les premiers 20 cm d'épaisseur. Si le jardin est grand, vous prenez une pelle au milieu, vous mélangez tout ça, vous en prenez à peu près la valeur de 2 grosses poignées, vous mettez ça dans une assiette en carton ou même en porcelaine, peu importe. Une cuillère à soupe de vinaigre, peu importe le vinaigre, qu'il soit de cidre, qu'il soit de vin, qu'il soit blanc, qu'il soit rouge, le vinaigre, c'est de l'acide acétique.
Mm-hmm.
Vous mettez une cuillère à soupe sur vos 2 poignées de terre, si vous avez une effervescence immédiate de la terre, le sol est calcaire. Je me répète, une cuillère à soupe sur 2 poignées de terre de votre jardin, s'il y a effervescence immédiate, le sol est calcaire.
Et s'il n'y a pas d'effervescence,
s'il n'y a pas d'effervescence, il est neutre ou acide.
D'accord.
Ok. Alors, dans les terrains neutres, par exemple, on va pouvoir planter tout un tas de plantes. Il y a des plantes de terrain acide qui acceptent un terrain neutre. Il y a des plantes de terrain calcaire qui vont accepter un terrain neutre. Mais il n'y a aucune plante de terrain à calcaire qui accepteront un terrain acide et vice-versa.
D'accord. Donc, est-ce que je dis une bêtise si un conifère va systématiquement dans un type de terrain ?
Oui.
C'est une bêtise ?
Oui, mais pas un conifère. Un certain conifère.
D'accord.
une espèce de conifère.
Donc on ne peut pas avoir de généralité.
Non. Dans tous les conifères, il y a des conifères qui acceptent les terrains calcaires et il y a des conifères qui refusent les terrains calcaires.
D'accord. Hein?
Bon. Oui.
Et tout ça, ça marche seulement s'il y a de l'eau aussi, non?
Alors, on y arrive. Hein?
Ah.
Alors, bien sûr, la pluviométrie, hein, vous la connaissez dans votre région, où il pleut régulièrement, où il pleut pas du tout, ou de façon complètement irrégulière. Par contre, vous avez peut-être de l'eau disponible. Il y a des coins. Ce matin, j'étais tout en bas, là, sur la Lande des Morts, et je suis arrivé dans un jardin où il y a de l'eau qui ressort du sol. Hein, il y a des résurgences. Bon, combien de temps ça durera, on ne sait pas.
Donc, c'est vrai qu'on a tendance à penser qu'en de l'eau, c'est systématiquement arrosé ou de l'eau de pluie.
Non, ça peut être un puits. Ça peut être un puits ou une nappe qui ressurgit pour une raison ou pour une autre. Alors, effectivement, mais combien de temps ça durera, on ne sait pas. Hein. Donc, la pluviométrie, l'eau disponible que vous avez, c'est-à-dire par exemple l'eau du puits hein, ou d'une mare, sans oublier les éventuelles restrictions, voire même les interdictions d'arrosage qu'il faut anticiper.
Mmh. Ah. Et si on reste dans notre région, en Méditerranée, ça risque peut-être de s'aggraver. Donc,
Tout à fait.
Il va y avoir une modification des jardins et des plantes.
Exactement. C'est déjà fait sur le littoral, c'est déjà fait à certains endroits, mais ça va demander à être fait davantage. Il va falloir s'adapter, il va falloir anticiper l'évolution à cause du climat, hein, l'évolution des plantations. Par exemple, quand vous allez remplacer, vous avez un arbuste qui va crever dans votre jardin, au lieu de le remplacer systématiquement par l'arbuste qui était en place, il faut peut-être regarder si cet arbuste-là est toujours dans le listing des plantes de sécheresse.
D'accord.
Et s'il n'y est plus, bah, il faut en prendre un autre. Hein. Bon. Il faut falloir réagir. Alors, il y a aussi autre chose qui est important, c'est de tenir compte de la place dont on dispose pour choisir une plante qui est adaptée à cet espace.
Mm-hmm.
Sinon, on est obligé de... Hein, sinon, ce sera une taille plus ou moins sévère, voire un élagage pour certains arbres, et c'est dommage. Hein.
Mais quand tu dis une plante adaptée à cet espace, c'est aussi... Est-ce que ça inclut aussi la taille du trou qu'on doit faire?
Alors, quand on plante un arbre, on le verra un peu plus loin, quand on plante un arbre, le trou, il est à peu près de la même dimension pour chaque arbre. Hein. Bon, il n'y a que pour les arbustes qu'il est un peu plus petit. Voilà. On en reparlera un petit
D'accord.
peu plus.
Hein.
Okay. Ah oui, on voit de plus en plus dans les espaces verts des végétaux taillés en carré ou en boule. Rien ne justifie cette taille, sauf dans les jardins classiques, entre autres. Hein.
Donc c'est sinon, pour faire beau, quoi.
Pardon ?
C'est pour faire beau. Mais est-ce que ça rend service à la plante ou pas ?
Je suis sceptique sur cette expression. Je pense plutôt que c'est une facilité de travail, avec un tailleur et un moteur.
D'accord.
Ça va beaucoup plus vite, c'est moins fatigant que le sécateur. Hein ? Bon. Je pense qu'il y a cette... On voit bien dans les vignes, maintenant, ils ont des sécateurs électriques, parce que c'est fatigant, le sécateur.
Ouais.
Bon. Bah, avec la taille. Mais par contre, cette façon de tailler nous prive de la diversité végétale, le port de l'arbuste, le feuillage de l'arbuste, la couleur de son feuillage, la floraison, qui est souvent coupée parce qu'on taille de 15-20 cm, donc on élimine la plupart du temps les fleurs qui sont terminales. Bon, il peut y avoir quelques fleurs qui restent éparpillées par-ci, par-là, mais la plupart sont... Et puis la fructification. Il ne faut pas oublier que la floraison, la fructification, la couleur du feuillage sont les éléments essentiels de décoration. Personnellement, je ne comprends pas. Je pense que c'est une question de facilité.
D'accord.
Mais bon, c'est mon avis personnel, mais qui est partagé quand même avec pas mal de vrais jardiniers.
Mais il y a ces arbustes, mais il y a aussi les haies qu'on taille. Est-ce que c'est la même chose ?
Alors, non. Hein ? Alors, c'est pas du tout la même chose. Hein ? Bon. Hein, mis à part les haies et les arbustes de jardin classique, comme je l'ai dit plus haut, la taille n'est pas systématique. Mais nécessaire, par exemple... pour faciliter une reprise. On achète un arbuste qui est un peu grand, on lui rabat de 30-40 cm, ça va l'aider à redémarrer. Hein. Si la plante est déséquilibrée, bon, il y a des peu, de temps en temps, il y a des branches qui se barrent dans tous les sens, bon, ben, on essaye de rééquilibrer la plante. Si elle gêne, il y a un passage, les branches viennent dans le passage, on a égale, ça, d'accord. D'où le bon choix de départ, hein, aussi. Ça revient, on revient à la case départ. Il faut bien choisir la plante, bien adaptée à l'endroit où on va la mettre. Hein. pour augmenter la floraison. Alors ça, c'est une autre histoire. Pour augmenter la floraison des rosiers, par exemple, on pratique une taille. Tous les ans.
Hein, ouais.
Bon. Pour améliorer le rendement fruitier d'un arbre fruitier, on fait de la taille. Avoir la vigne, par exemple,
ouais, hein,
c'est flagrant. Mais il n'y a pas que la vigne, les pommiers, dans les vergers de production fruitière, on taille tous les ans.
Les oliviers.
Hein, voilà, ou les oliviers, par exemple. Alors, on trouve de moins en moins de plantes vendues en racines nues, voire en mottes. Bon, il y en a encore, mais il y en a de moins en moins. Ce qui va vous amener à éviter d'acheter des grosses ou des grandes plantes dans des petits contenants. On voit quelquefois, dans des jardineries, dans des pépinières, des petits pots avec des grandes plantes. Attention.
Ouais, parce que j'ai remarqué, une fois, j'en ai acheté un, et toutes les racines, on a l'impression qu'elles se...
Elles font des chignons.
Ouais.
Voilà. Hein, donc, alors, ces plantes dans des petits contenants, auront un gros retard à la reprise. Il vaut mieux acheter des petites tailles, hein, avec une reprise plus facile, sauf pour un remplacement dans un massif existant, par exemple. Évidemment, si vous avez un massif existant avec des plantes, des arbustes qui font 1m50, 2m, 2m50, si on achète une plante de 60 cm, avant que le trou se remplisse, ça va demander un certain temps. Donc, il faut prendre un grand arbuste. Mais c'est vraiment exceptionnel. Hein, bon. Alors, vous achetez des plantes saines, bien équilibrées, le plus souvent en conteneur. Attention à ce que les racines ne forment pas de chignons intérieurs ou extérieur, hein, signe que cette plante est depuis trop longtemps dans le même pot. Ça crée un risque de blocage, difficulté à la reprise, c'est à rejeter. N'hésitez pas, quand vous êtes dans la jardinerie ou dans le pépinière, en douce, vous sortez la plante du conteneur, ça se fait facilement, et vous verrez bien s'il y a des chignons à l'extérieur ou à l'intérieur.
Hein. Bon. Okay.
Certains pépiniéristes proposent des plantes élevées dans des conteneurs anti-chignons. C'est le bon choix. Alors, c'est-à-dire que ces conteneurs, au lieu d'être carrés ou ronds, ils sont anguleux. Ce qui fait que les racines ne peuvent pas tourner. Hein? Ça, c'est très intéressant. Mais toutes les pépinières ne sont pas équipées. Pour les arbres, n'oubliez pas de faire un large trou de plantation bien avant. 1 mètre, 1 mètre 20, et puis 70 cm de profondeur. 70 de profondeur, ça dépend aussi des sols. On peut tomber sur des sols qui sont très caillouteux et très, très haut dans le sol, donc c'est difficile de faire des trous de 70 cm. N'oubliez pas le ou les tuteurs plantés dans le fond du trou avant de reboucher. Remettez bien les terres en place comme vous les avez trouvées, hein, c'est-à-dire que la couche du dessous, vous la mettez dessous, la couche du dessus, vous la mettez dessus, hein, dans la mesure du possible. Et vous tassez bien au pied de l'arbre. Attachez l'arbre au tuteur avec des colliers spéciaux. Hein, ne mettez pas un bout de ficelle, ça ne sert à rien. Plombez à l'eau pour coller la terre à la motte et aux racines. Je reviens sur le collier et il faut faire attention et au tuteur. Hein. On voit beaucoup d'arbres qui tiennent le tuteur. J'ai l'air de dire une plaisanterie comme ça. On voit beaucoup d'arbres qui tiennent le tuteur.
Mm-hmm.
C'est l'inverse qu'il faut. Il faut que le tuteur, il tienne l'arbre.
Bien
pourquoi
sûr.
Parce que, surtout dans les régions où on a du vent, hein, le vent d'antan, la tramontane, le mistral et d'autres régions, l'arbre, il est secoué, et à chaque fois qu'il crée des racines, s'il est secoué comme ça et que le tuteur ne le tient pas, à chaque fois, les racines cassent. À chaque fois que les racines cassent, l'arbre refait des racines.
Mmh.
Et à chaque fois, il puise dans ses réserves pour refaire des racines. Ça peut arriver à un épuisement au bout du compte.
Donc avec tout ça, est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir ?
Oui, ouais, on va y arriver. Hein? Par exemple, la vigilance, bon, dans ces plantes-là, c'est l'eau. La vigilance, c'est le besoin en eau. Parce que quand on plante, sauf les plantes méditerranéennes ou des plantes où il est bien marqué noir sur blanc qu'elles n'ont pas besoin d'eau, comme des cistes, par exemple. Le ciste, c'est une plante qui est courante en climat méditerranéen, même plus haut. Hein. Bon, l'Occitanie, etc. Bon, le ciste, il a horreur de l'eau. La lavande, elle a horreur de l'eau. Le lentisque, il a horreur de l'eau. Ce sont des plantes qui sont habituées à la sécheresse, qui ont besoin d'eau, mais qui n'aiment pas. Ça peut même déclarer des maladies cryptogamiques. Et la plante... Des maladies cryptogamiques.
Des champignons
microscopiques. Hein, bon. Donc, il y a des plantes qu'il faudra systématiquement arroser pendant 2 ou 3 ans, tous les printemps, pour les aider à démarrer. Et puis, il y en a d'autres, il ne faudra pas. Mais souvent, sur les catalogues spécialisés, des pépiniéristes spécialisés aussi, ça peut être marqué. Ou si ça ne l'est pas, c'est marqué sur Internet. Hein, c'est marqué « aime l'eau » ou « refuse l'eau » ou « pas d'humidité » ou « sol sec », etc. Hein, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller voir.
Hein. D'accord. Ouais.
Bon, moi, je suis pas très branché numérique, mais je trouve que pouvoir aller sur Google et taper le nom d'une plante, hein, et avoir des renseignements en regardant plusieurs sites, c'est quand même bien agréable parce que ça évite de commettre des erreurs. Bon. Alors, j'en étais où, hein? Alors, il y a un truc qui est conseillé, c'est que une fois que c'est planté, vous pouvez aussi prévoir une cuvette au pied de l'arbre, en prévision des arrosages futurs, mmh, hein, pour éviter que la flotte se barre partout. La flotte se concentre au pied de l'arbre. Alors ça, c'est nécessaire pour une bonne reprise pendant au moins 2 ou 3 ans, hein, selon les végétaux. Vous pouvez aussi pailler le sol avec des déchets compostés ou non. Hein, sur 1 mètre carré, 2 mètres carré, vous mettez 8-10 cm de déchets du jardin, ça maintient l'humidité, ça ralentit l'évaporation, c'est tout bénef.
Avec et donc, t'arroses aussi bien été comme hiver ?
Alors, l'hiver, bon, on arrose moins. L'hiver, on arrose, c'est surtout pour tasser la terre au pied de la plante. Et à partir du printemps, là, on arrose tous les mois, une fois ou deux fois par mois, pour abreuver la plante pour qu'elle puisse démarrer. Hein. Et puis ça, comme ça, pendant 1 an ou 2 ans, la troisième année, on commence à ralentir, la plante a pu s'installer. Hein. Mais il ne faut pas l'oublier, ça.
Et l'été, on arrose n'importe quand dans
alors,
la journée ?
Alors, l'été, dans les journées, non. Alors, il y a des discussions à cet égard depuis de nombreuses années. On arrose le matin ou on arrose le soir ? Alors, si on arrose le matin, bon, l'eau s'évapore dans la journée. Et si on arrose le soir, on arrose sur un sol qui est très, très chaud. Donc, il y a aussi une évaporation. Moi, je suis partisan d'arroser le soir. Mais le problème, c'est qu'il faut arroser très tard. 10h ou 11h. Bon. N'a pas toujours que ça à faire ou l'envie de le faire.
Et le goutte-à-goutte ?
Voilà. L'arrosage automatique permet d'arroser quand on veut, la durée qu'on veut, où on veut.
Et la quantité qu'on veut.
Okay. La fréquence, la quantité, l'endroit. Si on arrive dans un massif de plantes qui n'ont pas besoin d'eau, le tuyau passe dedans, il n'y a pas de buse, il n'y a pas de trou, l'eau continue, fait son chemin et va dans un massif un petit peu plus loin, où là, il y a quelques plantes qui ont besoin d'arrosage. Ça, c'est la solution de facilité. Hein. Et puis même si vous voulez partir 8 jours, vous branchez l'arrosage automatique. Quand vous revenez, vous n'avez pas de surprise. Hein. Okay. Pas besoin d'appeler la belle-mère pour qu'elle arrose.
Non, et le beau-père non plus.
Ou le voisin. Bon. Alors, voyons voir. Attention, n'oubliez pas que certaines plantes du littoral n'accepteront pas le climat de l'intérieur. Et vice-versa. Mm-hmm. Bon. D'autres n'aiment pas du tout, je reviens là-dessus, du tout l'eau à un moment ou à un autre. Alors, il y a aussi un enseignement qui est intéressant, c'est le pays d'origine de la plante. Par exemple, on a pour notre région, la région méditerranéenne, ou même en région occitane, sud-ouest, grand sud-ouest, des plantes d'origine d'Afrique du Sud, par exemple, sont souvent intéressantes. Alors, pas toutes, hein, mais parce qu'elles ont ce sont des plantes qui vivent sous un climat qui ressemble un petit peu. Hein. On trouve dans certaines pépinières spécialisées beaucoup de plantes d'Afrique du Sud. Alors, pour les arbres fruitiers, intéressez-vous aux porte-greffes, hein, quelquefois très différents selon les régions ou les variétés. Il y a une chose qu'il faut se mettre en tête, un végétal planté dans un sol et sous un climat très proche de celui de son territoire d'origine sera toujours plus résistant, même aux attaques parasitaires. Ça ne veut pas dire qu'il n'en aura pas, mais ça veut dire qu'il réagira beaucoup mieux. La plante, elle a des armes pour résister aux agents extérieurs, hein, mais encore faut-il qu'elle vive sous le climat, dans un terrain qui lui est propice. De plus en plus, on peut voir dans toutes les régions des jardins secs. Là, ça, c'est un petit clin d'œil. Alors, ils sont plantés de cactées, ils sont plantés de succulentes et d'autres végétaux qui sont bien adaptés à la chaleur, à la sécheresse.
C'est une option intéressante, le minéral remplaçant le végétal. Excusez-moi. C'est un choix à utiliser, à mon avis, dans certaines parties du jardin, propice à cette minéralisation, en attendant de voir la suite de l'évolution du climat. Je m'explique. Dans un premier temps, ça doit être des endroits particuliers, un talus, un endroit en plein cagnard, en pleine exposition, plutôt que de vouloir, comme dans certains magasins maintenant, qu'on voit dans des grandes surfaces, qu'on voit dans des zones commerciales, avec des sols en galets blancs, hein, et puis trois palmiers. Bon, on a remplacé le végétal par le minéral. Bon, c'est une solution économique, c'est une solution pratique, mais il faut savoir qu'à terme, le minéral, il peut commencer à être envahi par des petites plantes qui vont s'installer entre les galets et sur la nappe qu'il y a dessous, sur le feutre qu'il y a dessous. Donc, il y a une chose aussi qui me semble très importante, c'est votre implication personnelle. Comme jardinier. Parce que dans les choix que vous pourrez faire, cette implication est importante, je m'explique. Jardinier, bon, personne n'en doute, c'est un métier. Mais certains d'entre nous auront envie d'un espace jardin sans pour autant vouloir ou pouvoir s'en occuper. D'autres auront très envie ou pourront passer du temps au jardin, apprenant au fur et à mesure d'expériences heureuses ou malheureuses. Donc, bien réfléchir en se lançant dans l'aménagement du jardin, je ne souhaite pas disproportionner à nos envies, à nos moyens. Voilà. Tenez en compte tout ça. Et puis, bon retour dans votre jardin.
Allez, on y va ? On retourne au jardin ?
Oui, enfin, à l'heure qu'il est, je pense qu'on va plutôt aller à l'apéritif.
Bon, allez, on va à l'apéro.